Vous êtes sur RTL.
Il est 18h. C'est parti pour 2 heures d'infos RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de RTL Soir en format édition spéciale. Ce soir encore, nous allons répondre à vos questions nombreuses, notamment sur ce confinement que vous êtes nombreux, petits ou grands, à avoir de plus en plus de mal à supporter et on vous comprend. Marie-Estelle Dupont, psychologue, clinicienne et psychothérapeute, sera là tout à l'heure pour répondre au 3210. Présent également ce soir à 18h15, Philippe Douste-Blazy, avec 5 autres anciens ministres de la Santé. Il signe une tribune dans le quotidien du médecin pour défendre le gouvernement. Oui, cette pandémie était imprévisible. Oui, le gouvernement fait du mieux possible. N'en déplaise, disent-ils aux donneurs de leçons. Philippe Douste-Blazy, qui est par ailleurs très pro-chloroquine et à qui vous pourrez aussi poser vos questions au 3210. Mais tout de suite, c'est le journal et c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Le premier titre, la première grosse inquiétude ce soir nous emmène du côté de Metz.
Oui, Metz et le nouveau Mulhouse. L'hôpital appelle au secours ce soir. Les capacités de réanimation arrivent à leur tour à saturation. Après l'Alsace, la Lorraine vacille. La chloroquine serait-elle mortelle? L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine signale plusieurs cas de toxicité cardiaque. On parle même de cas mortels. Précision dans ce journal. 10 millions de masques made in China. La cargaison a été livrée aujourd'hui à l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne. Le pont aérien entre Paris et Pékin est lancé. Des masques, oui, mais pour qui et pourquoi faire? On fait le point sur les différents types de protection et leur utilisation, car parfois on s'y perd.
Ah oui, là, il y a besoin de clarifier.
On va y répondre. À suivre également un navire hôpital de l'US Navy dans le port de New York. Les États-Unis sont désormais le pays le plus contaminé du monde. Et puis un artisan d'art solidaire en Alsace. Le vitrier des artistes fabrique désormais des plaques de protection pour les commerçants. La bourse de Paris clôture en petite hausse ce soir de 0,62% à 4378 points.
La météo, c'est avec vous Louis Baudin. Bonsoir Louis.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors on aurait aimé annoncer du beau et du chaud, mais demain ça sera du beau et du froid.
Du froid également. Ben oui, mais ça nous aide comme ça à rester confinés, hein, parce que si faisait trop beau, on aurait du mal. Donc là, demain, bah, encore du froid, effectivement, avec un ciel presque totalement dégagé cette nuit, plus un petit vent de nord-est. Vous avez vu comme c'est désagréable. Non, vous ne l'avez pas vu, parce que c'est vrai qu'on reste tous à l'intérieur, mais c'est particulièrement froid en ce moment. Et ça le sera encore demain matin avec des gelées quasiment partout. On aura un ciel presque totalement dégagé. Il restera quelques nuages, comme aujourd'hui dans l'extrême sud, notamment sur les Pyrénées, entre les Alpes et la Corse, avec quelques averses, forme de pluie ou de neige, un peu plus de soleil dans la vallée du Rhône. Et avec ce ciel presque totalement dégagé, ben les températures de l'après-midi remonteront un petit peu par rapport à aujourd'hui, avec 10 à 14 degrés dans la moitié nord demain après-midi et 14 à 17 degrés dans la moitié sud.
Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure.
Thomas Soto, RTL Soir.
Sans attendre, nous partons donc dans la région Grand Est. L'hôpital de Mulhouse, on le sait, est saturé, plus de lits en réanimation. Sans surprise, hein, puisque le Haut-Rhin était l'un des premiers foyers épidémiques de France et le plus important. C'est là qu'avait eu lieu ce rassemblement évangélique qui s'est révélé dévastateur. Mais la contamination s'étend et désormais la Moselle est au bord de l'implosion à son tour. Samuel Goldschmidt, vous êtes le correspondant d'RTL dans l'Est. L'hôpital de Metz lance un appel au secours dans 4 jours. Metz, c'est Mulhouse.
Oui, ce sont les mots solennels de la directrice du centre hospitalier régional. L'épidémie s'aggrave brutalement et l'évolution de ce week-end est très inquiétante. Marie-Odile Saillard voit les places libres fondre à vitesse accélérée.
Nous avions vendredi 92 lits de réa et 76 patients dedans. Dimanche, nous sommes montés à 100 lits de réa. Et comme dimanche, nous avons envoyé des patients en Nouvelle-Aquitaine et en Allemagne avec un hélicoptère, je n'avais plus à ce moment-là que 84 patients dedans. Nous sommes dimanche matin. Ce matin, lundi, 8h, j'ai toujours 100 lits de réa. J'ai 90 patients dedans.
100 lits de réanimation, l'hôpital ne peut pas monter plus haut, c'est terminé. En l'état, elle supplie les autorités. Pour tenir, il faut au minimum 12 évacuations de patients de Moselle par jour. Et encore uniquement si l'épidémie ne s'aggrave pas, d'où ce signal d'alarme très fort.
Il est grand temps, mais grand temps, qu'on sorte du silence. La situation de la Lorraine Nord n'est pas la même encore que celle du reste du Grand Est. Là maintenant, nous sommes au bout de l'augmentation des lits. Si on ne se mobilise pas fortement, dans 3-4 jours, ça sera Mulhouse.
En l'état des admissions, la Moselle peut tenir 24 heures, peut-être 48 heures. Pendant la conférence de presse, la directrice a par ailleurs appris la mort d'un des médecins de l'hôpital, malade du Covid, qui était en réanimation.
Samuel Goldschmidt, correspondant d'RTL, dans le Grand Est.
Alors, l'un des grands problèmes du moment, c'est la protection et notamment le manque de masques. On en parle beaucoup. Un pont aérien est désormais en place entre la France et la Chine.
Oui, la France qui a commandé 1 milliard de masques et qui viennent pour l'essentiel des usines chinoises. Un premier avion a atterri hier à Roissy avec une cargaison de 5 millions d'équipements et un autre est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne. Bonsoir Pierre-Julien. 5 millions et ça n'est qu'un début.
Oui, bonsoir Isabelle. Énorme Antonov 124 de la société russe Volgadniab s'est posé en effet en début d'après-midi sur l'aéroport marnais de Vatry, affrété par Geodis, la filiale de la SNCF. Ce gros porteur transportait près de 10 millions de masques, dont 80% des très attendus modèles FFP2. On a pu assister aussitôt à un balai de chariots Fenwick pour sortir les palettes et les charger dans des camions. Toute l'opération a été particulièrement surveillée par les gendarmes. Ils vont assurer le transfert de ces produits jusqu'à plusieurs sites de stockage, notamment dans le Loir-et-Cher, la Somme et en Gironde. Les lieux seront gardés par des militaires de l'opération Résilience. D'autres vols sont programmés, 3 cette semaine. On parle d'une 60aine de rotations au total. Et il faut aussi noter, dans le cadre de ce pont aérien, les liaisons spéciales d'Air France. Ce soir, à nouveau, depuis Roissy, un Boeing 777 va prendre la direction de Shanghai et ramener mercredi, cette fois, quelques 5 millions de masques.
Merci Pierre-Julien. Les masques, tout le monde en veut, tout le monde en parle, tout le monde a un avis sur la question. Mais bon, on finit quand même par s'y perdre. Alors on fait le point avec vous, Sophie Jousselin, bonsoir.
Bonsoir.
Un point très concret. D'abord, quels sont les différents types de masques?
Alors, il y a deux types de masques. Les masques FFP2 ou bec de canard, ils sont réservés aux soignants. Ils sont équipés d'un filtre qui permet de ne pas inhaler les gouttelettes chargées de particules virales quand on est en présence d'une personne malade. L'autre type de masque, c'est ce qu'on appelle le masque chirurgical. Lui n'a pas de filtre, c'est un masque anti-projection.
Alors, quand faut-il porter un masque? Par exemple, est-ce que c'est utile pour se protéger. On voit bien que tout le monde en réclame dans les professions exposées, notamment dans les supermarchés.
Alors ce type de masque doit être porté par une personne qui présente des symptômes du coronavirus ou qui est déjà malade afin de ne pas postillonner ou cracher sur une personne en bonne santé pour ne pas la contaminer. Alors c'est vrai que beaucoup de professions réclament ces masques, il y a certainement un aspect psychologique, mais les professionnels sont absolument sûrs, ces masques ne sont pas faits pour se protéger mais pour protéger les autres.
Est-ce que parfois porter un masque, Sophie, ça peut être pire que si on n'en portait pas?
Oui, d'abord parce que ces masques doivent être changés toutes les 4 heures. C'est rarement fait. Ensuite, il faut les jeter. Combien de porteurs les glissent dans leur poche pour les réutiliser à chaque fois qu'ils sortent? Ensuite, il faut être très minutieux quand on les utilise. Il faut les mettre après s'être lavé les mains et ensuite ne plus les toucher. Or, on voit souvent des personnes les porter, puis les baisser vers le menton parce que ça les gêne, puis les repositionner devant leur bouche et leur nez, du bout des doigts qui ont eux-mêmes traîné sur des emballages, des surfaces pas propres. Rien de mieux pour se contaminer soi-même.
Et on entend dire qu'il y a une date de péremption, que les masques seraient plus utilisables après une certaine date comme des produits frais. C'est vrai, ça a un sens?
Alors non, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'on peut les utiliser s'ils ont été conservés dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans un endroit sec et ventilé, si l'emballage est intact. Il est de toute façon important de vérifier la solidité de l'élastique et de la barrette nasale qui maintient le masque sur le nez.
Merci beaucoup.
Merci Sophie Jousselin. Et dans les Bouches-du-Rhône, des employés d'un hypermarché Carrefour de Vitrolles ont exercé ce matin leur droit de retrait. Ils exigeaient la mise en place de mesures d'hygiène et de protection, mesures défaillantes selon la CGT. 2 salariés ont été contaminés au Covid-19 dans ce magasin. La direction du groupe assure que tout est désinfecté selon un protocole très strict.
De plus en plus de malades en réanimation, on le disait tout à l'heure, et on aura les nouveaux chiffres d'ici un peu plus d'une heure comme chaque soir. Mais reste la question des traitements, et notamment cette fameuse chloroquine chère au professeur Raoult. Elle ne serait pas aussi inoffensive qu'on veut bien le dire ou que certains veulent bien le dire.
Alors, selon nos confrères du Point, plusieurs patients testés positifs au coronavirus et soignés avec de la chloroquine ont eu des problèmes cardiaques. Certains auraient succombé à un arrêt du cœur. L'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine a confirmé plusieurs cas de toxicité cardiaque. Denis Grandjean, vous êtes à Bordeaux pour RTL.
Oui, le docteur David Abold, directeur de la santé publique à Bordeaux, a confirmé qu'une dizaine de cas avaient été signalés dans différents services de cardiologie depuis une semaine dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. En début d'après-midi, l'ARS, l'agence régionale de santé, a lancé un nouvel appel à la prudence pour ne pas utiliser la chloroquine en automédication. Cette molécule n'est pas anodine et les spécialistes insistent sur son danger principal. Elle peut provoquer des troubles du rythme cardiaque graves, pouvant être fatales, même si en l'état, les patients de Nouvelle-Aquitaine seraient hors de danger. Les réseaux des centres régionaux de pharmacovigilance ont réalisé un point d'information spécifique à la chloroquine sur un site internet chloroquine-point-d'information.
Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL.
Et c'est la chloroquine, c'est un sujet qu'on abordera évidemment avec Philippe Douste-Blazy dans quelques secondes. Vous nous appelez au 3210 pour lui poser vos questions.
Faute de masque, beaucoup de commerçants ont installé à leur caisse une barrière en cellophane ou une plaque de plexiglas. Bref, un écran pour éviter d'être contaminé par les clients à Erstein en Alsace. Un artisan d'art a donc décidé de se reconvertir. D'habitude, il fournit plutôt les artistes contemporains. Bien désormais, il fait des protections de caisse, si on peut dire, et il est débordé, Yannick Holland.
Dans son atelier, Nicolas Beck a plutôt l'habitude de fabriquer des pièces uniques pour les grands noms de l'art contemporain. Une de ses réalisations trône actuellement d'ailleurs devant le Louvre, une maison faite de cadenas par Carmen Mariscal.
Elle nous a demandé de construire une maison avec tous les cadenas des amoureux des Ponts des Arts qu'on est allé monter juste avant que... On est les histoires de confinement qui se soient mises en place. Quoi.
Avec l'arrivée de l'épidémie de coronavirus, un de ses amis lui a suggéré d'utiliser ses machines sophistiquées et son talent pour inventer des vitres de protection pour les commerçants et les caissiers, toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne face au virus.
Sur une journée, on a sorti 4 prototypes qu'on a redessinés nous-mêmes comme on le pensait. Et pendant une semaine, ça a quand même été assez fou, au point qu'on a dormi à l'atelier pour essayer de suivre les commandes. Parce que nous, on produit à la demande. Donc en fait, les gens appellent, ils me demandent quelque chose, on le lance. Généralement, ils reçoivent un mail dans les 10 minutes pour leur dire, écoutez, dans une heure ou dans deux heures, c'est prêt. Parce qu'on essaye de rester assez local. C'est très sympa, les gens viennent, bon, on garde nos distances, évidemment. Ils viennent charger leurs petits colis, on se rencontre et tout. Et en ces moments, ça fait pas de mal.
Nicolas Beck, qui l'avoue, au départ, il n'imaginait pas du tout avoir à jouer un rôle dans la lutte contre le coronavirus. Mais finalement, chacun à son niveau peut apporter sa pierre à la digue contre l'épidémie.
Reportage RTL signé Yannick Holland en Alsace. En bref, le mondial de l'auto, le grand salon de l'automobile qui devait se tenir début octobre à Paris, est annulé en tout cas dans sa forme actuelle, disent les organisateurs. Ce mondial qui est organisé tous les deux ans en alternance avec Francfort avait accueilli plus d'un million de visiteurs en 2018. Et puis à cause du coronavirus, le gouvernement réfléchit à rallonger le délai pour déclarer ses revenus dans le cadre de la campagne 2020. Cette campagne devait débuter normalement début avril.
Et si vous êtes demandeur d'emploi, pensez à actualiser votre situation. Il faut le faire, même si les droits sont prolongés, il faut le faire absolument, soit sur le site habituel, soit un numéro qui est le 3949. Nous partons maintenant aux États-Unis, car les États-Unis sont désormais le pays le plus contaminé de la planète avec au moins 150 000 cas.
Donald Trump ne prend plus les choses à la légère. Son conseiller spécial épidémie, Anthony Fauci, estime que le virus pourrait tuer entre 100 000 et 200 000 Américains. On en est à 2400 pour l'instant. Plus question donc de lever ou même d'alléger les mesures de distance sociale. La situation est particulièrement inquiétante à la Nouvelle-Orléans, mais aussi à New York. 98 morts hier en quelques heures seulement. Et aujourd'hui, Philippe Corbet, un navire hôpital de l'US Navy est arrivé dans le port de la ville.
Oui, l'US Navy Comfort, tout blanc, avec des croix rouges, un ancien pétrolier transformé en navire hôpital de 1000 lits et 12 salles d'opération. Dans un premier temps, il n'est pas prévu qu'il accueille des malades du Covid, mais qu'il soulage des hôpitaux saturés. C'est aussi pour ça qu'une organisation humanitaire est en train de bâtir des tentes sur une pelouse de Central Park. Et surtout, la garde nationale est en train de monter plusieurs hôpitaux de campagne de plusieurs milliers de lits dans la ville. L'un d'entre eux vient d'ouvrir à 500 mètres d'ici. C'est très impressionnant. Déjà 1000 lits, bientôt 2000, séparés de murs de tissu blanc. Ça me rappelle en fait les films sur la Première Guerre mondiale. On a vu ici des cadavres charriés sur des monts de charge pour être entreposés dans des camions frigorifiques. Le président Trump voulait venir accueillir le navire hôpital ici dans le port de New York, mais il dit que le Secret Service l'en a empêché. Donc l'un de ses partisans est venu avec un kayak surmonté d'un drapeau Trump 2020. Les gardes-côtes armés de fusils mitrailleurs l'ont empêché d'approcher du navire.
Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a obtenu cet après-midi le feu vert du Parlement pour légiférer par ordonnance dans le cadre d'un état d'urgence à durée indéterminée. Une situation que l'opposition juge disproportionnée pour lutter contre le nouveau coronavirus. Ce texte est vu même à l'étranger comme un instrument destiné à renforcer le contrôle du gouvernement en prenant la pandémie comme prétexte. Et puis, aux Pays-Bas, un tableau de Vincent Van Gogh a été volé dans un musée qui est actuellement fermé au public à cause de la pandémie. Il y a eu un vol par effraction. C'était un tableau intitulé Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps. Merci. L'accent n'est pas très bon, mais.
Non, mais on voit le tableau. On vous entend et on devine le trait de l'artiste. C'est formidable. Merci beaucoup, Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure dans un premier temps pour le rappel des titres à 18h30. Dans un instant, c'est donc Philippe Douste-Blazy qui est l'invité d'RTL Soir. Et pour l'interroger, vous nous appelez au 3210.
RTL Soir.